Bonsoir, merci d'être là à cette veille de week-end, mais vous avez eu raison de venir, parce que c'est une conférence exceptionnelle ce soir. Nous avons donc deux conférenciers qui vont nous parler d'un même endroit à, on va dire, à 3000 ans de distance, quoi. Le même endroit à 3000 ans de distance. Alors, je vous dis un mot sur les conférenciers, mais de toute façon, vous avez toutes les informations sur le petit fascicule qui vous a été remis. Nous allons d'abord entendre Véronique Grandpierre, qui est agrégée d'histoire, spécialiste d'histoire ancienne de la Mésopotamie, et qui est chercheur associé à l'Université Paris Diderot, qui a écrit des tas de bouquins sur la Mésopotamie, dont un qui est un petit bijou, que vous pouvez avoir comme livre de chevet d'ailleurs, et qui s'appelle, que je ne me trompe pas, qui s'appelle « Sexe et amour de Sumer à Babylone ». Ça, c'est un livre de chevet excellent. Et nous aurons aussi Malek Chebel, qui est alors à la fois anthropologue, psychologue, philosophe, et même politologue, on dit comme ça. Non, pas politologue, bon. Et qui est très connu pour ses travaux sur l'islam, la sexualité en islam, et qui a écrit aussi un autre livre de chevet. Voilà, vous avez deux livres de chevet ce soir. Alors, je ne sais pas, vous pouvez choisir le Kama Sutra arabe, ça c'est possible, ou bien l'érotisme arabe qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont.
Donc, je vais vous emmener entre le Tigre et l'Euphrate, que vous pouvez voir en diapositive, dans une région qui est déterminée au nord par le Caucase, au sud par le golfe arabo-persique, et qui correspond approximativement aujourd'hui à l'Irak, au nord-est de la Syrie et à une partie de la Turquie. Ce lieu, c'est le lieu du Jardin d'Éden, c'est le lieu où évoluaient Adam et Ève. C'est aussi le lieu où il y a une ville célèbre qui s'appelle Babylone, qui a parfois été qualifiée de grande prostituée. Alors, qu'en est-il de l'amour? Mais de l'amour pas maintenant, de l'amour il y a 5000 ans à peu près. Le problème est que l'amour est un sentiment et que le sentiment laisse peu de traces. Alors, comment peut-on parler d'amour il y a 5000 ans? On est dans une civilisation de l'oral, ça complique encore plus les choses. On dispose certes de sources judiciaires. Le seul problème, c'est que lorsque l'on possède des sources judiciaires, ça veut dire que l'amour se termine mal. En général, quand on termine devant le juge, ça ne se termine pas très bien. On a aussi des textes littéraires, notamment des chants, dits des chants de fiançailles, qui sont en fait des chants de fiançailles entre le roi et la déesse, mais qui sont là pour préparer la jeune fille au mariage. Évidemment, comme partout, comme à toutes les époques, on veut aimer et on veut être aimé. Alors comment on veut que ça se passe? On veut séduire, ça veut dire qu'on veut être le plus beau possible, le plus attirant. Alors qu'est-ce qu'un bel homme, qu'est-ce qu'une belle femme? Un homme se doit d'être grand, d'être souple, d'être musclé. Une femme, quant à elle, se doit d'être jeune, d'être belle, d'être séduisante, avec des mensurations pour les uns et pour les autres qui sont à peu près les mêmes que les nôtres. Les critères de beauté, vous pouvez le remarquer, sont à peu près les mêmes. Pour plaire, on va faire attention à sa mise, on va faire attention à son allure. On souhaite être le plus séduisant possible. Donc on va se laver, on va s'hydrater avec une huile qui va rendre la peau souple, brillante, qui va mettre en relief la musculature des hommes, qui va sublimer le visage des femmes. La plus courante de ces huiles, c'est l'huile de sésame. On en utilise aussi une autre qui est l'huile d'olive. Alors bien évidemment, l'huile de sésame et l'huile d'olive, ça ne sent pas forcément très 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 bon en premier lieu. Donc on va ajouter un certain nombre de choses, du cyprès, du cèdre, du pin, du genévrier, de la myrrhe, de manière à ce que cette huile sente bon. Ce sont les parfums de l'époque. Ensuite, on va se maquiller. Hommes et femmes se maquillent. Du fard à paupières, du vert, du bleu, du noir, du rouge, du blanc. On va se mettre du kohl, à la fois comme esthétique, mais aussi de manière aseptique. On va se mettre de l'ocre sur le teint pour avoir bonne mine. Le maquillage est reconnu, vécu comme une véritable arme de séduction. La déesse de l'amour, la célèbre Inanna, porte un maquillage très spécial qui s'appelle « qu'il vienne ». C'est-à-dire qu'elle a un maquillage qui est censé permettre à l'homme de venir. Elle va le séduire avec son maquillage, elle va le captiver et le retenir captif. Chez les hommes, ce qui séduit, c'est la barbe et les cheveux. Cette barbe et ces cheveux sont comparés à du lapis lazuli. Le lapis lazuli est une pierre bleu nuit, et donc une barbe bleu nuit est une barbe qui normalement doit attirer, doit séduire, doit fasciner, doit attirer les filles. Et dans les champs de fiançailles, on s'en rend compte très bien. Je vais vous en lire un extrait. C'est une fille qui parle. Qui donc, si ce n'est lui, a été fait pour moi ? Qui donc a été fait pour moi, comme sa barbe est de l'azurite ? Lui, ce berger, créé par le Dieu du ciel pour moi, comme sa barbe est de l'azurite. C'est un roi, comme sa barbe est de l'azurite, comme sa barbe est de l'azurite. Alors, comme vous le remarquez, on répète les mots. C'est spécifique à ces chants de fiançailles, parce que plus on répète, plus on crée la chose, on rend concret les choses. Dans un autre chant, une jeune déesse compare l'être aimé à un arbre touffu et vigoureux, et le compare à un lion, qui est l'animal associé à la déesse de l'amour. Et voilà ce que ça donne. « Oh, mon chevelu, oh, mon chéri, mon chevelu comme un palmier, mon chevelu comme un tamari touffu, mon ami à la chevelure sextuple, serre-la contre mon sein, ô mon chéri. Mon lion à la crinière quadruple, serre-la contre mon sein, mon frère au beau visage. Mon chevelu flamboyant, mon chevelu à la toison épaisse. » Bon, vous l'aurez compris, il vaut mieux pas être chauve. Et un présage le confirme et dit la chose suivante. « Si la chevelure d'un homme ondule jusqu'à ses épaules, toutes les femmes seront amoureuses de lui. » Évidemment, les filles aussi doivent avoir de beaux cheveux et clairement apprêtés. On a des coiffures avec des boucles, des tresses, des chignons. Et dans un poème, justement, encore pour un poème de fiançailles, on voit comment la jeune fille s'apprête. « Ma chevelure, c'est une laitue qui pousse près de l'eau. Une laitue cagoule qui pousse près de l'eau. Ses torsades ont été peignées et lustrées. Ma nourrice les a dressées bien haut. Elle a gonflé mes cheveux à l'eau. Elle en a multiplié et serré les bouclettes. Elle a bien disposé mes charmes. Mes charmes, c'est ma chevelure, pareille à une laitue, la plus belle des plantes. » Alors ça peut-être nous faire sourire d'avoir une comparaison avec la laitue, mais l'amant peut aussi être comparé à une laitue. Il a poussé, il s'est épanoui comme une laitue près de l'eau. Il faut savoir que gorgée d'eau, La laitue d'eau en Mésopotamie, c'est le symbole de l'abondance. Autrement dit, quand vous comparez quelqu'un à une laitue, vous avez là la promesse d'un érotisme torride. Une fois que vous vous êtes lavé, vous êtes coiffé, il reste à se vêtir et à se parer de bijoux. La plupart des vêtements sont en laine. Vous en voyez pour les vêtements des hommes, et le plus courant, au début du 3e millénaire avant Jésus-Christ, c'est une sorte de jupe que les Grecs appelleront plus tard konakès. C'est la diapositive que vous avez à gauche. Plus tard, vous avez d'autres types de vêtements, et les hommes peuvent porter également des robes, des manteaux en laine ou en lin. Bien évidemment, vous avez sur le côté droit une statue qui date du 3e millénaire avant Jésus-Christ, mais de la fin de ce même millénaire. Les femmes, quant à elles, sont toujours vêtues de robes longues. Vous avez des tissus qui peuvent être très raffinés, comme on le voit également sur la diapositive. Vous avez des couleurs vives, le tout est broché d'or et broché d'argent, dans les deux cas, que ce soit homme ou femme. Les deux, que ce soit homme ou femme, portent des bijoux qui sont finement ciselés. Des bijoux qui sont en métal, métal qui peut être de l'or, mais qui peut être également de l'argent, qui peut être aussi du fer. Au 3e millénaire, Nous sommes à l'époque du bronze, donc le fer est considéré comme un métal précieux. Ce métal enchâsse des pierres qui peuvent être du lapis-lazuli, de la cornaline, de l'agate, de l'améthyste, de la turquoise. Le but, bien évidemment, est d'être le plus beau possible, de séduire le plus possible. Vous avez à la fois être beau, montrer son rang social par les bijoux que l'on arbore, et puis les bijoux ont également une valeur symbolique. Leur forme, leur composition, les pierres qui font partie de ces bijoux agissent comme des amulettes. Donc ces pierres vont protéger leur propriétaire ou vont lui donner une certaine force ou un certain pouvoir, y compris dans le domaine de l'amour. Et dans le plus merveilleux des mondes possibles, deux jeunes gens, ainsi parés, se voient, tombent amoureux, se fréquentent. Et certains chants s'inspirent ainsi de situations réelles pour préparer la jeune fille. En voici un qui raconte l'histoire de deux jeunes gens qui se fréquentent un jour. Et voilà ce que dit la fille. Il vient à moi. Il vient à moi, le Seigneur, compagnon du Dieu du ciel. Il vient à moi, prend ma main dans la sienne, grand dragon du ciel, viens m'embrasser. Et cela continue. Et le temps passe. Et puis, il faut rentrer à la maison. Alors la jeune fille dit, « Et maintenant, taureau sauvage, laisse-moi que je rentre à la maison. Que vais-je dire à ma mère, Ningal ?» Et le jeune homme répond, « Ben moi, je vais te dire, je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner, Inanna, les ruses des femmes. Je vais t'enseigner ce qu'il faut lui dire à ta maman. Dis-lui, j'étais sortie dans la rue, marchant avec mes amies, faisant de la musique. Elles ont dansé pour moi. Nous avons chanté et le temps a passé. Utilise cela comme excuse avec ta mère. Et quant à nous, rions au clair de lune. Laisse-moi te préparer un pur, un doux, un précieux lit. Laisse-moi délier ta chevelure. Laisse-moi passer un doux moment avec toi dans la joie et la plénitude. » Dans le chant, la jeune fille bien élevée refuse. Et finalement, le jeune homme va demander sa main, se marie. Et les jeunes filles, de la même manière, doivent espérer cela. Leur nuit de noces sera inoubliable. Là encore, les chants de fiançailles les y préparent. On y installera ma couche féconde. On la couvrira d'une étoffe bleue d'ourou. J'y conduirai alors l'homme de mon choix. J'y conduirai le grand dragon du ciel. Il mettra sa main en ma main, son cœur contre mon cœur. Quel doux repos à dormir sa main dans ma main. Quel suave plaisir à serrer son cœur contre mon cœur. Dormir n'est pas seulement s'assoupir. La suite, la voilà. Époux, laisse-moi te caresser. Ma caresse amoureuse est plus suave que le miel. Dans la chambre remplie de miel, laisse-nous jouir de ton éclatante beauté. Lion, laisse-moi te caresser. Ma caresse amoureuse est plus suave que le miel. Époux, tu as pris avec moi ton plaisir. Dis-le à ma mère et elle t'offrira des friandises. À mon père et il te comblera de cadeaux. Ton âme, je sais comment égayer ton âme. Époux, dors dans notre maison jusqu'à l'aube. Ton cœur, je sais comment réjouir ton cœur. Lion, dormons dans notre maison jusqu'à l'aube. Dans un autre encore, l'homme est censé remplir d'eau la citerne, la fille tout en la labourant, et d'autres encore dans lesquels les termes sont un peu plus concrets, sont un peu plus crus, puisque je vous le rappelle, à l'époque, nommer les choses, c'est les rendre réelles. Autrement dit, on ne compte pas fleurettes, on compte fruits. Le but est quand même d'avoir des enfants. Dans la réalité, en effet, tout n'est pas tout à fait comme dans les chambres de fiançailles. Bien évidemment, on peut être célibataire, mais la norme est d'être marié et d'avoir des enfants. Cela permet l'accroissement du corps social, en particulier si on a des fils. Ça permet aussi de défendre la cité. Ça permet d'assurer la transmission du patrimoine familial. Ça permet de subvenir aux besoins des parents pendant leurs vieux jours. Ça permet également, une fois qu'ils sont morts, de prononcer leur nom, leur permettant encore de subsister. Or, le problème, c'est que le seul parent dont on est biologiquement sûr à l'époque, les tests ADN n'existant pas, c'est la femme. Autrement dit, d'un point de vue sociétal, la femme doit être fidèle, le mari, pas nécessairement. À condition, bien évidemment, qu'il ne commette pas l'adultère avec une femme mariée. Comme il s'agit de transmettre un patrimoine, l'amour n'est pas forcément le premier critère d'un mariage. Et les plus souvent, les mariages sont arrangés entre deux familles. Et le premier des critères, à ce moment-là, est la composition de la dot. Même si, évidemment, d'autres critères peuvent venir. Et pourquoi pas l'amour. Plus les familles sont riches, et moins ce dernier critère, moins les sentiments semblent être pris en considération. Cela dit, l'objectif étant d'avoir des enfants légitimes, il va de soi que les relations sexuelles tiennent une place importante dans la vie du couple. C'est l'objectif des champs de fiançailles, on l'a vu. C'est aussi l'objectif de beaucoup de plaques que l'on a retrouvées, qui sont des petites plaques d'argile, où on voit un couple faisant l'amour sur un lit, ou dans un lit, ou parfois sur un lit et dans un lit, pour favoriser les amours du couple légitime. On met ces petites plaques dans la chambre à coucher pour bénir l'union. Plus les relations sexuelles sont épanouies, et mieux c'est. En Mésopotamie, on n'est pas bridé par l'idée d'un péché originel. L'amour charnel a une valeur positive, parce qu'il permet la procréation. Donc, la virginité n'a pas de valeur positive en elle-même. La fille qui est vierge est d'ailleurs définie par la négative, qui n'a pas été pénétrée, qui n'est pas ouverte, qui n'a pas connu un homme. En fait, la fille passe de l'immaturité à la maturité sexuelle à partir du moment où elle n'est plus vierge. Elle est complète quand elle ne l'est plus. De la même façon, la virginité n'est pas valorisée chez l'homme. Un homme qui est un vrai homme est un homme qui sait bien faire l'amour. Dans l'épopée de Gilgamesh, son ami Enkidu est un être sauvage qui devient un être civilisé lorsqu'il apprend à bien manger, c'est-à-dire à ne pas manger des grains, mais du pain, à bien boire, c'est-à-dire à ne pas boire l'eau des rigoles, mais boire de la bière, et à bien faire de l'amour, c'est-à-dire à faire l'amour comme un être humain et non pas comme un animal. L'initiation sexuelle a donc une valeur positive chez le garçon. Pour la fille, c'est un petit peu différent, puisqu'elle a une valeur positive, mais uniquement à l'intérieur du mariage. Mariée ou pas, il n'y a pas de culpabilité féminine. Donc la femme est libre de son plaisir, et elle a même le droit d'y prendre part. Dans le cadre des champs de fiançailles, cette joie, cette envie se manifeste. Plus le plaisir attendu est présent, plus l'union sera réputée féconde. Autrement dit, les relations sexuelles doivent être joyeuses. Elles doivent provoquer du plaisir. Et parmi les cinq sens, on a un rapport différent au sens à l'époque. Et à l'époque, c'est l'ouïe qui est un des sens les plus importants. Donc, bruit et émotion sont liés. Autrement dit, plus la femme a de plaisir, plus elle doit émettre de son. Et l'homme également. Plus les relations sexuelles sont sonores, et plus la femme est susceptible de tomber enceinte, d'après les croyances de l'époque. Bien évidemment, il faut que l'homme soit viril, puisqu'il faut qu'il comble sa femme. S'il ne l'est pas, il est l'objet de raillerie. Et dans ce cas, il existe un certain nombre de potions, d'incantations, pour lui permettre de raviver un petit peu sa virilité. L'amour est un sentiment qui existe partout, qui n'a pas de tabou à l'époque, et indépendamment du mariage, on voit qu'il existe des incantations pour que survienne l'amour d'un homme envers une femme, d'une femme envers un homme envers un homme, d'une femme envers une femme. On n'a pas encore retrouvé d'incantation, mais on sait que ça existe par ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en matière de sexualité, de jugement moral. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de réprobation, pas de péché, pas d'infamie, pas d'interdiction religieuse, puisqu'au contraire, il est fait appel aux dieux pour favoriser tous ces types d'amour, les amours hétérosexuels comme les amours homosexuels. En revanche, il n'y a pas de valorisation des amours homosexuels, ce n'est pas un rite de passage. Chacun fait ce qui lui plaît tant que les relations sont librement consenties, qu'elles restent dans la sphère privée, et surtout, et c'est très important pour les femmes, qu'elles n'ont pas d'impact social. Encore une fois, pour les femmes, si elles sont mariées, les amours ne peuvent rester qu'à l'intérieur du mariage. La passion est regardée comme le résultat d'une magie. Bien évidemment, dans les champs de fiançailles. On l'a vu, la femme est libre de choisir son mari, libre de séduire son amoureux, libre d'exulter. Il n'y a jamais de sentiment négatif. Il n'y a jamais d'amour malheureux. Pas de jalousie amoureuse. Pas de haine. Juste l'impatience de deux jeunes gens qui veulent vivre leur amour physiquement. L'homme est toujours décrit comme étant séduit par une femme. Il est un amant ardent qui assouvit sa partenaire. Encore faut-il qu'ils soient amoureux l'un de l'autre. Et je vous ai parlé tout à l'heure des textes juridiques. Et l'on se rend compte que beaucoup de textes de nature juridique montrent que ce n'est pas toujours le cas. Dans les champs, en revanche, il y a très peu de désespoir amoureux. On en a un petit peu, mais vraiment, c'est extrêmement rare. Je voudrais vous en lire un qui date du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ et qui évoque l'histoire d'une jeune fille, enfin d'une femme, pas d'une jeune fille justement, le chant est très long, donc ça commence quand elle est jeune fille, et le temps passe, et elle est devenue une femme. Et il se trouve que son mari est allé voir ailleurs, et voilà ce qu'elle dit. « Je te demeurerai fidèle, m'en sois témoin, Ishtar, c'est la déesse de l'amour, m'en sois témoin, Ishtar, la reine, mon amour prévaudra, et cette mauvaise langue sera confondue, car désormais, moi, je m'accrocherai à toi. » Et je compenserai ton amour par le mien. Mais non, elle ne t'aime pas. Qu'Ishtar la reine la confonde et qu'elle perde le sommeil comme moi et demeure des nuits entières, accablée et bouleversée. Et le chant continue, fait le portrait de cette affreuse qui lui a volé son mari. Et finalement, le texte se termine en conte de fées. Son mari revient et voilà ce qu'il lui dit. Oui, tu es la seule qui compte. Ton visage est toujours aussi beau. Il est comme autrefois, lorsque je me serrais contre toi et que tu reposais ta tête sur moi. Je ne t'appellerai plus que charmante, et sage sera ton seul titre pour moi. Et qu'Ishtar m'en soit témoin, désormais ta rivale sera notre ennemie. Vous l'aurez compris, en Mésopotamie, en ce qui concerne la littérature, il n'y a jamais d'amour malheureux.
Merci Véronique. Nous allons passer la parole à Malek Chebel qui va nous parler de l'amour à Bagdad.
Bonsoir. Je vais vous parler de l'amour à Bagdad en partant du 6e siècle, c'est-à-dire avant Bagdad, si je puis dire, avant la Bagdad sur laquelle je vais m'étendre plus longuement, jusqu'au 16e, 17e siècle. Donc c'est une période de 10 siècles à peu près, du 6e siècle, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'islam, jusqu'au début de la Renaissance ici et du début de la modernité d'aujourd'hui. Pour ce faire, je vais me centrer sur la notion d'amour depuis le début jusqu'à la fin. Et à partir de là, je bifurquerai sur deux, trois éléments d'appréciation pour que vous compreniez de quelle nature il s'agissait concernant l'amour. Et je vais diviser mon intervention en trois parties. D'abord, l'amour courtois, l'amour charnel et l'amour spirituel. L'amour courtois, l'Arabie ancienne, l'Arabie bédouine, est considérée comme la terre mère, la patrie, de l'amour courtois qui représente ou qui est illustré, si vous voulez, par l'amour des Bédouins. Parce que cet amour courtois, en arabe, al-hubb al-udri, c'est un amour qui se consume dans l'imaginaire des amants. C'est un amour qui est qualifié comme étant sincère et pur, chaste, et qui peut mener les amants jusqu'à la fin physique, la fin définitive, sans qu'il y ait forcément de consommation. Donc, il s'agit de tribus qu'on appelle des tribus virginalistes, dans la terminologie d'aujourd'hui, qui cultivent un amour fondé sur sur l'honneur, sur la dignité, sur la distance très exactement, entre les amants. Et le meilleur amant, c'est pas celui qui saute sur son aimé, sa bien-aimée, dès qu'il la voit ou dès qu'il en tombe amoureux. C'est celui qui saura maintenir une distance relativement grande dans l'espace et dans le temps avec l'objet de son amour. Et qui plus est, il va rajouter à cette distance le fait de ne faire aucune publicité sur la personne aimée, de façon à ne pas la déshonorer, parce qu'on est dans un système clanique, un système de tribus, qui contrôle, il y a un contrôle culturel, si vous voulez, sur le comportement et l'attitude des jeunes. Et donc les jeunes tiennent beaucoup au fait d'aimer sincèrement, d'aimer une seule personne, donc une sorte de monogamie d'entrée de jeu, et de maintenir la distance, de l'aimer à distance et de loin, et surtout de l'aimer jusqu'à la mort, de ne pas en varier. C'est le principe de l'amour courtois tel qu'il est défini par les poètes de l'Arabie pré-islamique du 6e siècle et qui a été reproduit, au 8e siècle, 8e, 9e siècle, qui a été défini, qui a été, comment dire, conceptualisé par un grand théologien et en même temps aussi amateur de choses profanes, qui s'appelle Ibn Daoud. 8e, 9e siècle, il a défini ce qu'était exactement l'amour courtois, c'est-à-dire l'amour qui unit les personnes par-delà la distance et par-delà la consommation. Et cet amour courtois a voyagé dans l'espace et dans le temps, s'est retrouvé en Andalousie, et y compris en France, et il a été étudié très très précisément en Europe, notamment par Denis de Rougemont, dans l'amour et l'Occident. Et c'est Denis de Rougemont qui en a fait la promotion ici en France, la plus éclatante. René Nelly aussi en a parlé. Et un auteur que vous connaissez tous, Stendhal, qui a parlé dans un livre qui est injustement méconnu, qui s'appelle De l'amour. On connaît Le Rouge, Le Noir, tout ça, on connaît tous les livres de Stendhal. Mais celui-là n'est pas très connu, il s'appelle De l'amour. Et dans ce livre, Stendhal dit déjà, en son temps, que le véritable amour est l'amour courtois, qui est celui qui caractérise l'amour des Bédouins. Et le véritable amour se trouve sous la tente du Bédouin, donc dans l'Arabie antique, avant l'islam, et c'est l'amour exactement dont je parle ici, c'est-à-dire l'amour courtois. C'est très intéressant de commencer par cet amour courtois, qui est déjà historiquement le premier amour qui a été formalisé par les poètes et par les théologiens et par les écrivains, parce que on va voir dans l'évolution qu'il va être combattu très fortement par les générations qui vont venir par la suite. Nous sommes donc au 6e siècle, l'islam ne sera révélé qu'à la fin, au début du 7e siècle, mais le prophète, lui, naît vers 570-571 après Jésus-Christ. Il commence à prêcher vers 610-611, donc début du 7e siècle, et il va prêcher pendant 22 années, jusqu'en 632, entre la Mecque et Médine. Et ça nous intéresse, la Mecque et Médine, au moment où la prédication se faisait, au moment où le Coran était en train d'être révélé, au moment où le Coran était en train d'être appris par cœur avant d'être mis sur papier par la suite. Il y a un poète qui s'appelle Omar ibn Abi Rabi'a, un grand poète, né dans un contexte aristocratique de la Mecque, mais caractérisant tout le Hijaz, c'est-à-dire la Mecque, Médine et les villes alentour. C'est un poète magnifique, Mukhadram comme on dit, c'est-à-dire qu'il est né avant l'islam et il est mort après l'islam. Donc il a vu la période pré-islamique, il a vu la naissance de l'islam, la révélation du prophète et la prédication de Mohammed, et il est mort vers 722, 23 par là, 24, juste après l'Hégir. Et donc, grâce à ce poète, dont on a l'œuvre quasi complète, la poésie brûlante de l'amour, parce que c'est un poète de l'amour véritablement, un aristocrate, assez licencieux, une sorte de Casanova, en tout cas, il est décrit comme étant le plus bel homme de l'époque, du moment, et dans certaines confidences de certaines belles, parce que c'est un jouisseur impénitent, alors que jusqu'alors on était monogame par définition et chaste, Lui, il va introduire une équation nouvelle, c'est la non-chasteté par définition et d'une manière invétérée, c'est-à-dire séduire toutes les belles qui passent ou qui ne passent pas et dont il entend parler, même il peut faire des voyages à très longue distance pour rencontrer une belle dont on lui a dit, dont on lui a vanté les charmes. Et inversement, les femmes aussi, ayant su qu'il était le plus bel homme de la région et du moment, d'autant qu'il était fils d'une belle famille, libre de parole et d'engagement, n'arrêtaient pas de le suivre et de le chercher. Et il y a même une confidence d'une de ces belles-là qui avait fait le pèlerinage à la Mecque sur plusieurs centaines de kilomètres. Elle avait armé, si je puis dire, une caravane pour aller à la Mecque, faire le pèlerinage. Donc une fois que le pèlerinage était instauré à Médine, quand le prophète a fait son exode à Médine. Et quand elle a appris que Omar ibn Abi Rabi'a allait venir pour le pèlerinage, lui il vient pour le pèlerinage, pas pour faire le pèlerinage, évidemment c'est un mécréant de première, parce que le pèlerinage c'est l'occasion pour lui de rencontrer d'autres belles qui viennent d'ailleurs, qui viennent de tous les confins d'Arabie. C'était une scène pour lui, une scène théâtrale dans laquelle il va pouvoir jouer et exercer ses charmes. Et donc les femmes aussi ayant su ça, les aristocrates évidemment, les prétendantes, armées des caravanes et venaient avec leurs serviteurs et servantes sur plusieurs centaines de kilomètres dans l'espoir d'être gratifiées par un regard de Omar ibn Abi Rabi'a et si possible par un vers dans sa poésie. Et c'était pour elles la plus grande promotion qu'elles peuvent connaître de leur vivant. Mais lui, c'est un licencieux, évidemment. Il sait exactement quelles sont les dames qui viennent. Et il en joue, parce qu'il sait qu'il est beau comme un dieu. Et toutes les femmes les femmes faisaient le tour de la Kaaba, non pas pour prier Dieu, mais pour croiser le regard de Omar ibn Abi Rabi'a. Et ça, on a ça dans sa poésie. Dans sa poésie, il l'explique tout à fait. Et il dit, et même ce Omar ibn Abi Rabi'a, alors qu'il avait toutes les femmes de la Mecque et de Médine à ses pieds, il était tombé amoureux, malgré lui. Évidemment, quand on tombe amoureux, on ne décide pas exactement du moment et du jour, et même de la personne, d'une certaine Turaya, une fille qui veut dire en arabe constellation. Il en est tombé amoureux jusqu'à sa mort. Et on n'a jamais su de qui il s'agissait exactement. Il l'appelle Turaya, mais on ne sait pas laquelle des Turaya d'une part, et on ne sait pas si c'est un nom ou un surnom. Parce qu'évidemment, il se trouve que les règles d'éthique de la société bidouine arabe de l'époque, c'est qu'on donnait des surnoms aux belles qu'on voulait séduire, pour ne pas les offenser, pour qu'elles ne souffrent pas ou qu'elles ne subissent pas les contre-coups de cette publicité au cas où sa famille arrivait à savoir de qui il s'agissait. Donc on donnait des surnoms aux filles. Elle s'appelle, par exemple, Aïcha, on dit Turaya. Parfois même, dans la poésie, il y a toute une école de poésie épicène où on ne sait jamais si c'est un homme ou une femme. Donc on ne sait jamais si c'est homosexuel ou hétérosexuel. Mais en réalité, les poètes changent le prénom de la personne aimée pour ne pas lui porter préjudice. Nous sommes au 7e siècle, le Coran vient d'être révélé, du vivant même du prophète, et il va être mis sur parchemin et transcrit peu de temps après, par écrit. Et quand on lit le Coran aujourd'hui, on se rend compte assez rapidement que le Coran est d'abord un livre, comme l'islam tout entier, un livre nataliste. Il est en faveur donc de la natalité, et dans le hadith c'est la parole du prophète qui commente le Coran et qui l'explique aussi, on apprend que, un, l'islam est une religion nataliste, deux, qu'elle est contre le célibat. Les célibataires sont encouragés, vraiment, on leur suggère très vivement de se marier, on s'arrange même pour leur organiser les épousailles, les fiançailles, etc. Et on les aide même matériellement. Trois, le régime matrimonial n'est pas très clair. Je m'explique, c'est-à-dire qu'avant l'islam, on pouvait avoir autant de femmes qu'on voulait, donc la polygamie était une polygamie un peu à la grecque, traditionnelle, un homme qui épousait plusieurs femmes dans l'espoir de constituer une sorte de tribu. À l'arrivée de l'islam, on se rend compte que la polygamie va être réduite à 4 épouses légitimes, avec des conditions draconiennes pour que cette relation soit viable. Parce qu'il y a aussi, le contrôle social qui se fait, qui devient maintenant contrôle religieux. Donc la polygamie est limitée à 4 épouses, mais les conditions draconiennes que pose le Coran font que la polygamie devient quasiment elliptique, et c'est pas une quantité, c'est pas une donnée statistique majeure, parce que les conditions sont si draconiennes qu'aucun homme ne peut satisfaire pleinement ses épouses à tout point de vue, évidemment sexuellement, mais aussi matériellement, mais aussi dans les ambitions, dans la fertilité, etc. Ce qui fait qu'il y a une sorte de d'errement des époux et des hommes en général dans la recherche de deux éléments d'équilibre qui sont la fertilité de l'épouse et le nombre des épouses. Donc un homme, même s'il est puissant, même s'il est riche, il lui faut ces deux conditions-là. Si la femme n'est pas féconde, à l'époque on n'a évidemment pas les contrôles de la stérilité qu'on a aujourd'hui, parce que l'homme n'est jamais évidemment stérile dans ces cas de figure, dans la mesure où c'est lui qui décide par sa puissance financière de prendre d'autres femmes ou pas. Donc, si le couple n'est pas fécond au bout de l'année ou de deux années de suite, il est en position de pouvoir en changer, de prendre une autre femme, etc. Et on se retrouve comme ça avec des polygames, pas des polygames, si je puis dire, horizontaux, mais des polygames cumulatifs. C'est pas des hommes qui ont 4 femmes en même temps, légitimes, sans compter les concubines et les esclaves, mais 4 femmes au fur et à mesure, les unes après les autres, et même plus. Donc on a tous les cas de figure de ce type dans l'Arabie ancienne, entre le 7e et le 9e siècle. Au 9e siècle, qui est le 9e siècle de Jésus-Christ, évidemment, parce que c'est après Jésus-Christ, c'est pas l'Hégire, l'Hégire commence en 622, donc on se retrouve, si vous voulez, au 2e siècle de l'Hégire, au 9e siècle de l'ère chrétienne. Au 9e siècle, tout le droit musulman concernant la famille, concernant la relation matrimoniale, concernant le nombre de femmes, la polygamie, la monogamie, concernant l'héritage, va être fixé définitivement par les théologiens. Et c'est à partir du 9e siècle que beaucoup de ce que les anciens faisaient sans aucune culpabilité, sans aucun esprit de sans contrainte au fond, vont changer, y compris du côté féminin, parce que jusqu'alors la femme était relativement protégée par la parole du prophète et du Coran lui-même. Mais au 9e siècle, ce sont des théologiens qui vont rajouter leur grain de sel et essayer de codifier ce qui a été laissé pendant, ou aussi bien dans le Coran que dans le hadith, dans la parole du prophète. Donc ce sont des théologiens. C'est une corporation de théologiens assez puissante, au demeurant, qui avait toute autorité sur le dit coranique, sur le schéma coranique, et donc qui décrétait que telle chose était correcte, telle chose était légitime, l'autre chose n'était pas légitime. Donc, on se retrouve avec un siècle qui va crisper un peu les relations entre hommes et femmes, et d'une manière générale, tout ce qui concerne la féminité, le statut de la femme dans la société. Arrive le 10e siècle, et avec le 10e siècle, il va se passer un certain nombre de choses très intéressantes qui vont nous concerner ici et maintenant, aujourd'hui, dans le monde arabe et dans les terres d'islam. La chose, c'est que au 10e siècle, naissent les mille et une nuits. Les mille et une nuits naissent à Bagdad, très exactement, dans le palais ou autour du palais. On ne connaît pas l'auteur. L'auteur est un auteur anonyme. Mais quand on analyse les mille et une nuits par le contenu, on se rend compte très vite que les mille et une nuits sont une création féminine. Contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas une création masculine, c'est une création féminine. Je suppose, moi, dans ma façon d'évaluer les choses, que ce sont des femmes du palais, des femmes plutôt fortunées, ce sont les femmes qui vivent dans le palais, fortunées, assez instruites, très curieuses, mais essentiellement esselées. J'imagine qu'il y a un grand nombre de femmes pour un petit nombre d'hommes. Donc, et ces femmes-là qui sont dans le palais, qui sont belles, riches, tout ce que vous voulez, mais elles s'ennuient à mourir et elles sont obligées de recréer un monde qui est, qui leur convient bien, un monde à leur mesure. Ce sont les mille et nuits, donc, parce qu'on voit bien dans les divagations des mille et nuits que ça ne peut pas être une psychologie masculine qui parle aussi bien des hommes. Ça ne peut être que des femmes qui décrivent aussi bien les hommes, y compris dans l'intimité. Et donc on a un regard de la conteuse et des conteuses des mille et nuits, d'ailleurs symbolisée par Scheherazade elle-même, qui tient la vedette, puisque l'héroïne vraiment des mille et nuits, c'est Scheherazade, c'est une femme. Les conteuses connaissent très bien la psychologie masculine, et voire même la sexualité masculine. Et dans la manière dont elles décrivent ces phénomènes-là, c'est très net. Quand vous apprenez que ça pouvait être des femmes, vous comprenez mieux d'ailleurs les contes. Je vous donne juste un exemple. Le coup de foudre. Le coup de foudre, beaucoup de coups de foudre dans les mille et nuits. Alors, je me suis posé la question, pourquoi il y a tant de coups de foudre dans les mille et nuits? Alors que les mille et nuits sont un conte qui n'est pas linéaire, mais qui est très joyeux, qui est très ouvert, qui est fondé sur la curiosité, sur le... Les coups de foudre, c'est la manière qu'a la femme arabe de Bagdad au Xe siècle, parce qu'on est au Xe siècle maintenant, au Xe, XIe siècle, quand elle est, si vous voulez, embassillée dans un harem ou dans un palais, et qu'elle ne voit l'homme qu'à travers le moucharabier, juste quand il traverse la fenêtre. C'est qu'elle a 2 secondes pour tomber amoureuse. C'est le coup de foudre. C'est une définition, si vous voulez, mécanique du coup de foudre. Ou c'est la traduction de la situation concrète qui pousse les femmes à tomber, à avoir des coups de foudre et à éprouver des coups de foudre. Non pas que toutes éprouvent des coups de foudre à chaque passage d'homme, évidemment, c'est pas le cas, mais c'est juste pour donner l'image que le coup de foudre est la façon d'une personne contrainte, enclavée, cloîtrée dans un harem, qui est obligée, si je puis dire, obligée quand même de tomber amoureuse, parce que c'est une fonction vitale de l'être humain, comme avoir faim, comme avoir soif, comme vouloir voyager, vouloir un peu de liberté ou voir le soleil, ne serait-ce que voir le soleil. Le coup de foudre est l'aliment, si vous voulez, vitaminique de la femme enclavée dans un harem, et elle exprime donc toute sa pulsion, toute sa libido à travers la rapidité, la pression avec laquelle elle jette son dévolu sur sa victime expiatoire ou sa proie ou son complément vitaminique qui passe de l'autre côté, quoi. Et ça, je n'imagine pas un homme, si vous voulez, qui dispose de sa liberté, qui voyage dans Bagdad, qui sort de Bagdad, tomber, avoir un coup de foudre. Parce que lui, il a la possibilité de suivre la belle, de lui chanter les chants qu'il veut, de la pister avec le code-barre qu'elle laisse toujours, parce que la femme en Orient a un code-barre, et les amants orientaux connaissent très bien le code-barre de la femme. Savent très bien comment retrouver une femme dans le fouillis des villes orientales dont on peut penser qu'elles sont anarchiques. Elles n'ont pas de nom de rue et de numéro de maison, mais elles ne sont pas anarchiques du tout, puisque on peut facilement pister les belles à travers d'autres mécanismes. Le parfum, le vêtement, la manière, la marche, la parole. Quand elle parle, elle donne une adresse presque précise. Quand elle met un parfum, on sait à peu près de quelle classe sociale. Quand elle a sa façon de marcher, on sait quelle est son éducation, sa façon de se voiler, on sait dans quel magasin elle a acheté ses vêtements, etc. Donc on peut décrypter le code barre féminin sur un certain nombre d'éléments visibles ou supposés tels. Donc on est au Xe siècle, les mille et nuits vont faire éclater le schéma, si vous voulez, de la femme soumise, de la femme ignorante, de la femme peu cultivée, de la femme peu curieuse, de la femme peu jouissive. Au contraire, dans les mille et nuits, nous avons une sorte de feu d'artifice de toutes les attitudes séductionnelles, sexuelles, amoureuses et sentimentales qui puissent exister. Tout le prisme de toutes les émotions sont décrites dans les mille et nuits. Tout ce qu'un traité de sexologie, si vous voulez, du 19e siècle à répertorier se trouve dans les mille et nuits. Le voyeurisme, le fétichisme, la zoophilie, les pratiques amoureuses, toutes les pratiques amoureuses auxquelles vous pouvez penser et à celles même auxquelles vous ne pensez pas sont dans les mille et nuits. Parce que c'est vraiment la traduction précise, concrète, presque scientifique de ce qui se passait à Bagdad au Xe siècle. Nous avons affaire à une société clivée, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Les hommes sont décrits, et là c'est un autre élément, si vous voulez, qui confirme que les millénaristes sont une production féminine, sont décrits comme des gens rustres, des monstres, sans cœur, sans foi ni loi, des consommateurs invétérés, pas de sentiments, ils s'attachent pas, ils sont autistes, bref, et bien évidemment, ils sont tous cocus. Et ça, un homme ne parle pas de ça. S'il est cocu, il ne parle pas de ça. Les femmes peuvent parler de ça, parce que c'est elles qui sont la cause de l'adultère. Et on a une sorte de vision, si vous voulez, un miroir inversé de la société globale, la société des princes et des rois, des vizirs et des sultans, parce que c'est au temps de Harun Rachid. Nous avons la vie du palais qui est décrite avec précision. Donc, miroir inversé de la société telle qu'elle se dit officiellement, telle qu'elle se présente dans les livres, par exemple, du droit, les livres de la jurisprudence, les livres de la théologie, les livres de la grammaire, les livres de l'histoire officielle. Les mille et nuits, c'est l'inverse. J'ai dit une fois qu'il y avait dans le Coran ce qu'il n'y avait pas dans les mille et nuits, il y a dans les mille et nuits ce qu'il n'y a pas dans le Coran. C'est que les mille et nuits sont, en quelque sorte, face au Coran qui est le livre sacré, le livre spirituel, les mille et nuits sont le livre sacré profane. C'est l'antithèse du Coran. Et autant le Coran parle du ciel et de ce qui est céleste, de ce qui est divin, autant les mille et nuits parlent de la vie concrète, commune, quotidienne des gens qui vivent dans Bagdad, les hommes et les femmes, surtout les femmes, parce que c'est toujours vu à travers le regard des femmes, et à travers toutes les perversions sexuelles, plus ou moins fantasmées d'ailleurs dans certains cas, les djinns par exemple, il y a beaucoup de djinns, il y a beaucoup de chevaux ailés, des tapis qui volent, etc. On se demande pourquoi les djinns, évidemment, c'est toute la fantasmagorie des narratrices des mille et nuits qui sont enclavées dans un palais, qui imaginent ce que peut être l'extérieur des palais et les pays qui voyagent. C'est tout. Donc on a vraiment une vision tout à fait précise, mais inversée, de ce qui se passe à Bagdad au Xe siècle. Ça, c'est l'amour charnel, la description, au fond, presque clinique de l'amour charnel à Bagdad au Xe siècle, qui va être le patron le plus précis de ce que va connaître le monde arabe pendant les 10-11 siècles qui vont suivre. Je vais terminer avec le troisième type d'amour, qui est l'amour divin. L'amour divin démarre au 8e siècle avec les premiers mystiques musulmans qui essayent de coller au schéma qui est établi dans le Coran, de la mystique, tout entièrement dédiée à Dieu. Donc on a toute une corporation de mystiques, ce sont les soufis, qui vont aimer Dieu tout en restant des êtres humains, tout en restant des gens de la vie courante. Ils sont dans les mosquées, ils ont des commerces, ils ont parfois femmes et enfants, ils sont voyageurs, ils sont pèlerins, ils sont commerçants, bref, ils ont toutes les activités profanes, ordinaires, sauf que à travers le Coran et à travers l'islam, on leur dit que Dieu est le Tout-Puissant, et c'est le Dieu unique qu'il faut aimer. Al-Mahabba, le premier mot de l'amour, c'est l'amour de Dieu. Al-Mahabba, bon. Alors, l'amour de Dieu, c'est un amour qui va être porté par les mystiques du début à la fin, qui va avoir une particularité, c'est que c'est un amour imprécis, non défini, non identifié. On ne sait pas si c'est un sentiment humain pour Dieu, on ne sait pas si c'est un sentiment que donne Dieu à l'être humain pour qu'il puisse être aimé. Dieu dit dans un hadith Qudsi, un hadith du prophète, c'est une expression du prophète, quand j'ai voulu être reconnu, j'ai créé l'homme pour pouvoir me reconnaître. Quand j'ai voulu être aimé, j'ai créé l'amour pour que l'homme puisse m'aimer. Donc, on a avec l'amour mystique, l'amour divin, une troisième catégorie d'amour qui ne contredit pas l'amour charnel, qui ne contredit pas l'amour courtois, mais qui les englobe dans un même souci, chose qui va exploser aussi à sa manière, et ça sera la dernière phrase quasiment, comme ça ton cerveau peut se reposer, autour du 15e, 16e siècle, avec ce que j'appelle la théologie de l'amour. À un moment donné, les théologiens parlaient de l'amour mystique, mais aussi de l'amour humain, de l'amour fantasmé, etc. Ils sont devenus experts dans la matière, et à la mosquée, parfois, le vendredi, les grandes mosquées, il y a avec le même imam Une fois que la prière est terminée, il arrive que ces théologiens-là, que j'appelle moi les théologiens de l'amour, poursuivent la méditation avec leurs ouailles en parlant de sexe et d'amour. Al-Ghazali est un exemple parfait. C'est le plus grand théologien de tout l'islam. Et il a écrit des livres somptueux sur la question de la sexualité. Il a décrit la sexualité féminine, y compris sur les séquences de la jouissance et tout. Parler des aphrodisiaques, des parfums, d'approcher la femme en lui donnant force, caresse, les mots doux, etc. pour la détendre et l'ouvrir, pour qu'elle s'ouvre d'elle-même, pour que son corps se prépare, les vêtements, l'hygiène, la propreté, c'est une obsession, etc. Je termine vraiment maintenant en disant qu'une dernière partie, qui est la partie érotologique, et voir qui c'est le Kama Sutra, c'est le jardin parfumé de Cheikh Nefzaoui, c'est le collier de la colombe de Ibn Hazm en Andalousie, traité de psychologie amoureuse, c'est Ibn Fulayta, un auteur d'une très très grande beauté que j'ai découvert récemment et qui est traduit donc dans mon livre, 16e siècle. Et depuis le 16e siècle, 17e siècle, la veine s'est estompée. On n'a plus de... L'amour est devenu tabou. Tous les blocages, les inhibitions, les culpabilités ont repris du poil de la bête. Et on se retrouve maintenant dans une société clivée, mais sans imaginaire. Clivée et sans projection sur l'autre. Et puis finalement, le résultat est le même. On retrouve avec des jeunes qui sont mordus de accro à la pornographie, aux films pornographiques, etc., en sautant la case magnifique, sublime, inventée quasiment par la tribu des Bene Udra, c'est la tribu virginaliste d'Arabie, qui est celui de l'amour courtois, les préliminaires, l'amour tendre, l'amour charnel et l'amour divin. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Malek. Alors, c'est vrai que tu ne nous as pas convaincus sur une chose, hein. Parce que toi, tu es tout à fait capable de faire les mille et une nuits, hein, tu t'arrêtes plus même. Hein. Donc, c'est toi, tu es un homme. Hein,
non. Mais je suis un homme du 10e siècle.
Donc ah bon, sûr. D'accord. Bon, alors, on va commencer le débat entre vous. C'est ce qui nous étonne tout de suite, en fait, c'est la ressemblance, en fait, hein, la ressemblance et les différences aussi, hein, mais la ressemblance d'abord, c'est-à-dire. Est-ce que c'est la première question qu'on se pose, c'est le même endroit, Bagdad, Sumer, c'est le même endroit. Qu'est-ce qui fait que cette terre produise les textes sur l'amour? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la terre elle-même qui produit ça? Alors je vous pose la question à tous les deux, mais à Véronique d'abord, j'imagine.
Dans la terre. Je ne sais pas si la Terre a quelque chose de particulier. Disons que c'est le berceau en fait de plusieurs religions polythéistes, mais c'est aussi le berceau des religions monothéistes. Et donc on a des continuités qui s'expliquent très bien, tant dans le judaïsme, le christianisme et l'islam.
Est-ce que vous voulez nous en parler de ces continuités là? Parce que là on a une description un peu discontinue, quoi, mais qui nous donne à rêver, mais est-ce que vous voulez nous parler de ces continuités? Est-ce qu'on peut les suivre? Est-ce qu'on peut les traquer?
La rupture, je vais plutôt parler de la rupture, c'est-à-dire du moment où la rupture entre le polythéisme et le monothéisme, c'est exactement la même terre, là pour le coup le même cadre géographique, mais à partir du moment où vous avez un monothéisme, vous avez une emprise beaucoup plus différente des religions. Je pense que ça doit être la même chose par la suite, mais disons sous l'Antiquité. Sous l'Antiquité, vous avez deux monothéismes, le judaïsme et le christianisme. Et avec le christianisme, vous avez Saint Augustin qui réduit quand même beaucoup la sexualité. Et c'est là où le péché, Adam et Ève, qui avaient commis le péché de connaissance, ce péché de connaissance devient le péché de chair. Et à partir de ce moment-là, on a un regard sur la sexualité qui est totalement différent et un regard sur l'amour qui est de même.
Oui, alors pour ma part, je dirais la sexualité, à mes yeux, est la plus belle histoire que l'humanité ait jamais connue, beaucoup plus encore que la sexualité et l'amour. Hein. La sexualité et l'amour sont, à mes yeux, la plus belle histoire que l'humanité ait connue, peut-être même beaucoup plus que les religions, beaucoup plus que tout le reste, quoi. Et cette découverte ne vient qu'a posteriori. C'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de siècles de raffinement, d'élévation de l'esprit, d'expérience, de recherche, de quête, de rencontre, pour que un sentiment amoureux puisse exister. Et donc, et quand il y a une décadence, c'est d'ailleurs la première chose qui disparaît. Ça n'est pas la base qui disparaît, c'est surtout ce qui est inventé in fine. On le voit avec, par exemple, vous ne pouvez pas partir sur n'importe quel sujet en demandant à quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la vie de vous faire un traité sur la beauté, par exemple, ou sur la tendresse, ou sur des choses les plus délicates et les plus raffinées. Il faut, pour qu'il y ait un propos intelligent, un propos sincère, il faut que ça soit fondé et nourri à travers donc tout un cheminement individuel ou collectif, et même souvent les deux, d'une société qui est porteuse de beauté, porteuse de une quête de la beauté, une quête de la recherche de sens. Et donc, je pense que pour moi, l'islam a permis ça, avec évidemment tous les côtés négatifs du monothéisme et surtout d'une mauvaise application de ce monothéisme. Quand on a affaire à des choses lourdes comme le harem par exemple ou la polygamie ou l'esclavage, la mise en servitude des concubines, etc. Donc hormis ces écarts types, globalement une religion qui vous permet, qui ne vous culpabilise pas quand vous avez droit à la chair, elle vous dit allez-y, c'est une bénédiction, la chair en islam est une bénédiction. C'est l'inverse qui est mal vu, c'est l'homme qui ne consomme pas, c'est la femme qui ne consomme pas, qui sont mal vus. Ceux qui consomment dans un cadre légal, évidemment, sont des bénis de Dieu, puisque c'est exactement la même chose, la même idée. Étant donné que c'est une création de Dieu, l'être humain, la femme, la sexualité, l'homme, ce sont des entités pures et propres et belles. Il ne peut pas y avoir d'impureté, par exemple, de la femme. On dit la femme est impure au regard d'un certain nombre de rituels très précis, codifiés par les hommes. Mais généralement, tout ce qui vient de la femme est beau, tout ce qui vient de l'homme est beau. D'où la conjonction des deux fait que la sexualité est bénie par l'islam et n'approche le paradis que celui qui aura satisfait à cette condition ici-bas. Pas demain, pas dans les houris, les vierges du paradis. Tout ça, c'est une extrapolation tout à fait imaginaire. Mais d'abord ici et maintenant, l'homme et la femme doivent pouvoir se donner ce plaisir-là de pouvoir consommer la sexualité, consommer la chair autant qu'ils peuvent, sans aucune limite, parce qu'ils ont été créés comme tels par Dieu.
Alors, Véronique...
Alors, sous l'Antiquité, la seule limite, c'est que les enfants soient légitimes.
Ça, c'est des limites... Bon,
c'est des limites sociales, ce ne sont pas des limites religieuses. Mmh. On peut très bien, si on est célibataire... avoir des relations sexuelles ou tomber amoureux de quelqu'un d'autre, à partir du moment, encore une fois, où les enfants sont légitimes. Et puis si on commet l'adultère, il faut faire en sorte que... Si la femme connaît l'adultère, il faut faire en sorte qu'on ne s'en aperçoive pas.
Oui, mais enfin, il y a quand même... Moi, je vois une discontinuité. Il y a une continuité, c'est évident, dans les formes que ça prend. Mais je vois une discontinuité radicale. C'est que les divinités ont des relations sexuelles à Sumer.
Elles bénissent les relations sexuelles d'un peu de la même manière.
Aussi.
Elles en ont aussi parce que il y a plusieurs divinités et ce sont des divinités qui vivent comme les hommes. Mais finalement, la sexualité des divinités, elle est très simple. Elle n'est absolument pas comme la sexualité des divinités grecques ou romaines. Qui changent de déesse, qui de temps en temps vont avoir quelques relations sexuelles avec des humaines ou des humains. Une belle jeune fille qui passait par là et Zeus se transforme en pluie d'or ou se transforme en autre chose pour pouvoir coucher avec elle. Ce n'est absolument pas ça. Les dieux restent avec les dieux. Ils restent en couple.
Ils restent en couple.
Il n'y a pas d'adultère chez les dieux. Il n'y a pas plus d'adultère chez les dieux que chez les hommes. Les dieux sont représentés à l'image des hommes.
Mais Inanna, elle n'est pas mariée.
Elle ne commet pas d'adultère puisqu'elle n'est pas mariée.
Ah oui, d'accord, c'est pour ça que...
Une femme a le droit de ne pas être mariée à Sumer. Mmh. On a différentes possibilités pour être célibataire. Ouais. Y compris, quand on est célibataire, on n'a pas l'obligation d'être vierge. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'obligation d'être vierge pour quiconque, d'ailleurs, à Sumer.
Alors, les femmes libres, c'est comment, alors ?
C'est comme Inanna. Inanna a plusieurs visages. Inanna est la protectrice de tous les amours possibles et imaginables. C'est elle qui accueille en son sein tout le monde. Donc les homosexuels, les prostituées, hommes ou femmes, les femmes mariées, les prêtresses. Donc une prostituée, bien évidemment, a des relations sexuelles. C'est son métier.
Oui.
Voilà. On peut être aussi prêtresse ou dans un couvent religieuse et avoir des relations sexuelles. Simplement, certaines n'ont pas le droit à des relations sexuelles, mais c'est un petit peu particulier. D'autres ont droit à des relations sexuelles, mais n'ont pas le droit d'avoir d'enfants.
Oui.
Certaines ont le droit d'être mariées ou pas. Le problème est toujours très pragmatique et très concret. Si une prêtresse avait des enfants, elles hériteraient. Les enfants hériteraient.
Hériteraient.
Et seraient héritiers du père.
Oui, d'accord.
Ou hériterait en même temps de la dot de la mère ou de ce qu'elle va apporter comme douaire à l'intérieur du temple. Mm-hmm. Et à ce moment-là, le temple ne posséderait plus ses propres biens. Donc on va interdire à certaines prêtresses d'avoir des enfants. Mais on ne leur interdit pas d'avoir des relations sexuelles. Simplement, on leur préconise des positions qui feront en sorte qu'elles n'aient pas d'enfants.
Ça, c'est dans les textes.
Oui.
Vous n'en avez pas lu des comme ça.
Non.
Alors donc,
c'est un petit peu cru.
C'est un peu cru. C'est ça qui nous a tous frappés quand même. Les textes sont très crus. Hein.
Les textes, pour la plupart, sont très crus pour une bonne raison, c'est qu'on n'a pas du tout le même rapport au sens qu'aujourd'hui. Je pense que les Sumériens seraient extrêmement choqués par la moindre de nos publicités, qui leur semblerait vraiment extrêmement obscène. Même si nous, elles nous paraissent courantes. En revanche, tout passe par les mots. Ce sont les mots qui rendent concrètes les choses. Mmh. Donc on prononce les mots. Le seul problème, c'est que pour rendre réelles les choses, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Donc si vous comptez fleurettes, vous allez faire pousser des fleurs. Si vous voulez des enfants, vous allez dire ce que vous voulez faire. De façon très précise.
Bon, alors donc, il y a bien un hiatus, là, quelque chose qui se passe. Parce que là aussi, Malek a beaucoup insisté sur l'amour courtois, c'est-à-dire un amour qui est à distance, non explicite, fait d'allusion, d'image. C'est pas ça du tout dont vous nous avez parlé.
Non, c'est pas ça du tout, mais il faut savoir que... Peut-être le rapport à l'écrit est un petit peu différent parce que nous sommes au début de l'écriture. On n'a pas forcément exactement les mêmes textes. Nous avons des chants de fiançailles qui au départ s'adressent entre la grande prêtresse et le roi. Ça n'est pas forcément, ça n'a pas forcément la même fonction. Ce n'est pas forcément par des femmes qui s'ennuient. Ça a aussi un but et qui est le but est la prospérité du pays. Donc on est quand même dans une réalisation, dans un but concret des choses, peut-être plus que pour les milliers de nuits.
Alors, juste une question avant qu'on passe la parole à Malek. Hérodote nous raconte que les temples étaient des lupanars. Est-ce que c'est vrai ?
Non.
Bon, d'accord.
Non. Les temples n'étaient pas des lupanars, mais effectivement, il existe des temples à la déesse de l'amour. Et dans ces temples, à la déesse de l'amour, les prêtresses de la déesse Inanna ont le droit d'avoir des relations sexuelles et elles ne sont pas mariées.
Dans le temple ?
Non, mais personne. Enfin, il ne faut pas voir des temples comme les temples, enfin comme les églises ou comme les mosquées actuelles. Les gens ne rentrent pas dans les temples. Il y a simplement le grand des servants qui va rentrer dans vraiment le quartier saint des saints du temple. Donc, on peut avoir des relations sexuelles ailleurs.
D'accord. Malek ?
Non, ce qui m'impressionne, c'est que vous les faites parler comme des modernes. C'est très sympathique quand on voit comment vous décrivez ces gens-là. Disons que peut-être le facteur monothéisme a rajouté, a clarifié les rapports en les figeant un peu, Mais je pense que l'arrivée de la caricature et de l'image a tout bousculé là aussi. par rapport à, si on devait parler des gens de Bagdad d'aujourd'hui, la Bagdad d'aujourd'hui, parce qu'après tout, c'est Bagdad.
Bagdad continue.
Elle est éternelle.
Bagdad continue.
Elle est éternelle. C'est la ville aux mille vies. Oui, on imagine que les gens de Bagdad d'aujourd'hui, les natifs de Bagdad, fonctionnent un peu sur le même rythme que Paris ou que les grandes villes, parce qu'ils sont connectés et ils subissent. C'est une question quand même intéressante parce que c'est juste pour voir un peu quel est le socle dur, quel est le disque dur de l'amour et quelles sont les disquettes de l'amour. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est l'invariant? Qu'est-ce qui est le variant? Parce qu'après tout, dans la description que nous avons faite l'un et l'autre, on se rend compte qu'il y a quand même des variantes, que l'amour n'est pas uniquement une consommation, c'est pas de l'hédonisme pur, il y a toujours une fonction sociale à la sexualité, même si elle est masquée. C'est la fécondité, c'est la perpétuation de la famille, c'est la prospérité d'un pays, c'est la force d'un clan, c'est l'accroissement de la population. Bref, il y a toujours quand même in fine un but, et c'est en cela que nous sommes, si vous voulez, des amoureux nés, puisqu'on est pour cette fonction-là précise, et des êtres humains. Je suppose que les animaux aussi ont des objectifs, mais ça, c'est pas de mon rayon exactement. Mais je dirais, qu'est-ce qui est l'invariant de l'amour, et qu'est-ce qui peut varier à partir du disque dur, qu'est-ce qui tout autour peut varier, et quelle est la distance, quels sont les... Comment les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes Bagdadi, eux, se voient par rapport, par exemple, à l'émergence des réseaux sociaux, de la connectique générale, en général. Ça, c'est très intéressant de voir s'il y a des survivants.
Alors, encore une question, si vous me permettez, puis on va passer la parole à la salle. Mais moi, ce qui m'a frappé dans vos deux discours, c'est aussi le fait que, surtout dans le récit de Véronique, c'est ils savent ce qu'ils veulent, quoi. Et ce qui est important, c'est l'expression la plus explicite possible du désir, en fait. Hein. Et dans ce que disait Malek aussi, c'est l'expression du désir. Bon, peut-être pas de manière aussi explicite, mais est-ce que c'est la clé de savoir, c'est-à-dire d'avoir repérer l'objet de son désir et de l'expliciter, est-ce que c'est ça la clé de l'affaire?
De l'amour?
Oui.
Il vaut mieux avoir un objet du désir.
Mais non, parce que si c'est un coup de foudre, c'est l'objet qui s'impose. Mais là, c'est on repère l'objet et on fait en sorte de l'obtenir.
Alors, c'est un petit peu différent au troisième millénaire et au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. On a un terme qui est le terme rerum, qui signifie à la fois avoir des relations sexuelles, copuler pour être précise, et ensorceler. Autrement dit, on a aussi l'idée...
Quand même. Que ce soit le même mot, que c'est très important.
Oui,
quand même, non,
que la relation sexuelle en elle-même est quelque chose qui s'impose aussi. On n'a pas seulement, on ne va pas choisir seulement son objectif, c'est aussi quelque chose qui s'impose. Mmh. On a été ensorcelé. On ne peut pas s'opposer à l'amour.
Mais c'est-à-dire
s'opposer en se disant, on peut se restreindre au niveau relation sexuelle, en disant je suis amoureux de telle personne, mais c'est telle personne, je n'y ai pas droit. Mais on détache bien l'amour des relations sexuelles.
Mais si on est ensorcelé, il y a bien un sorcier.
Il y a un sort.
Il y a un sort. Il y a bien quelqu'un qui l'a fabriqué.
Et donc on peut le délier, le nouer, on peut le dénouer.
C'est ça, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué.
Alors, il y a quelqu'un ou quelque chose?
Ou quelque chose.
Quelqu'un ou quelque chose.
Mais il me semble avoir lu dans vos textes qu'on a retrouvé des sorts comme ça.
Oui, on en a retrouvé pour qu'un homme tombe amoureux d'une femme, pour qu'une femme tombe amoureux d'un homme.
Donc il y a bien quelqu'un qui l'a fabriqué, non?
Ben, on peut aller voir quelqu'un pour aller fabriquer un sort. Ça. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, le problème n'est pas de tomber amoureux. Le problème est que la personne dont vous tombez amoureux soit amoureuse de vous.
Ça.
Donc, celui qui tombe amoureux... S'il ne sait pas si l'objet de son désir est d'accord ou pas, s'il lui semble que l'objet de son désir ne l'a même pas remarqué, peut aller voir quelqu'un pour justement concocter des petites potions, lui faire quelques incantations, quelques rites, quelques petites figurines qu'on va mettre dans des endroits précis, de manière à ce que la femme tombe amoureuse ou l'homme tombe amoureux.
Alors les mille et une nuits, c'est bourré de trucs comme ça.
Il n'y a pas que les mille et nuits, hein, la vie courante et quotidienne du Maghreb, de toutes les tribus que je connais du Maroc jusqu'au Pakistan, jettent des sorts, font des talismans, font boire toutes sortes de saloperies à l'homme pour l'enchaîner à elle. C'est malheureusement, je dirais que comme le coup de foudre, comme la jalousie, vous voyez, par exemple, on me dit la femme arabe est jalouse, je dis pourquoi elle serait plus jalouse que les autres. C'est parce que dans une situation de contrainte, les individus sont obligés de trouver des mécanismes rapides et efficaces pour arriver à un but donné. Donc souvent, la jalousie, les phylactères, les sorts qu'on jette, etc., c'est juste pour couper le réseau habituel, fléché, c'est un réseau non fléché qui permet à la personne d'arriver à un but infini. Mais je dirais que, pour revenir sur la poésie au début, le monde arabe était un monde connecté totalement et indexé à la poésie et à l'art oratoire. Je dirais que, ça me rappelle deux choses, je les donne juste en signalant. Le cantique des cantiques, donc, chez les chrétiens.
Chez les juifs, hein, mais les chrétiens, ils ont copié. Hein.
Oui, non, mais quand même, c'est d'une beauté. Je pense que ce que je voulais dire, c'est que la beauté de la poésie, est ensorcelante en elle-même. Hein, il y a de la magie dans l'éloquence, a dit le prophète. Il y a de la magie dans l'éloquence, c'est un mot du prophète, la hadith. Il y a de la magie dans l'éloquence. Et deuxième point, 20e siècle, John Herbert, faisant une enquête ethnographique à Tripoli, à Benghazi, la fameuse Benghazi dont on a tellement entendu parler, dans les lupanars de Benghazi, il a pu constater sur le pubis des prostituées le nom et pratiquement le téléphone, il n'y avait pas le téléphone, mais enfin l'équivalent du téléphone, sur le pubis des prostituées pour les mecs, les macros qui les pilotaient, ou en tout cas sur le pubis, elle mettait plutôt celui de leur amant virtuel.
L'amant de cœur.
L'amant de cœur auquel elle ne peut pas aboutir malheureusement, mais elle se rasait et elle mettait le nom ou le dessin, le cœur brisé là, sur le pubis. Je trouve ça y a pas plus extraordinaire, il y a pas charme plus extraordinaire que ça. Vous imaginez l'homme dont l'adresse est posée sur le pubis de la prostituée, je trouve ça.
On a du mal à imaginer, mais on va l'imaginer.
Moi j'ai une imagination galopante, donc du coup j'imagine toutes sortes de situations. Parce que est-ce que ça veut dire qu'elle ne couche qu'avec cet homme-là? Et est-ce que le client paye plus cher quand il rentre dans la maison de quelqu'un d'autre? Est-ce que l'autre, il broute dans le pré du voisin? Et donc, c'est tout ça. En plus, elle se raser le pubis, c'est déjà en soi, si vous voulez, un geste inattendu. Je sais que les femmes doivent être glabres dans le modèle de la beauté orientale. Naguère, aujourd'hui évidemment, il faut resituer toujours dans le contexte, mais de poser la signature et le paraphe de quelqu'un sur le pubis, c'est pas n'importe quoi. En psychanalyse, on a beaucoup à délirer là-dessus. Hein.
Ah, bon, d'accord. On va délirer là-dessus alors. Dernière, parce que ça c'est pour ma curiosité personnelle. Inanna, elle a des pieds de quoi d'autruche?
Elle a des serres, en fait.
Elle a des serres.
Oui.
Pourquoi?
Parce qu'elle est ailée, en fait. Les premiers dieux ont des
ailes. Elle est ailée.
Après, ils sont représentés juste avec la tiare à cornes. Le symbole de la corne étant le symbole de la force.
Et pourquoi les serres?
Parce que ça permet de s'envoler. Tout simplement. C'est les pattes d'oiseau.
Parce qu'elle est aussi un oiseau, quoi. C'est comme ça que vous interprétez les choses.
Elle peut voler, c'est-à-dire que les premières grandes divinités sont représentées avec des ailes. Vous avez Ishtar des Babyloniens, Inanna des Sumériens qui est représentée avec des ailes. Vous avez le dieu de la sagesse aussi qui est représenté avec des ailes. Certaines divinités sont représentées avec des ailes. Et donc elles ont des pieds qui correspondent à leurs ailes.
Parce que j'imagine que Malek, ça lui rappelle plein de choses. Ces femmes qui sont superbes et qui ont des pieds pas normaux, ça doit te rappeler des choses, Malek. On le dira tout à l'heure. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à la salle qui a sûrement plein de questions.
C'est une question pour Madame Véronique Grandpierre. Merci pour les beaux textes que vous nous avez lus. On sait que plusieurs textes bibliques, comme le déluge, Moïse, sont issus de textes mésopotamiens. Est-ce qu'on sait si le Cantique des Cantiques se réfère à un texte sumérien ou akkadien précis ?
Non, il ne se réfère pas directement à un texte akkadien précis, mais effectivement, c'est sur le même modèle. On a des textes à peu près identiques avec les mêmes métaphores. Simplement, ce n'est pas le décalque pur. Enfin, pour l'instant, on n'en a pas trouvé un qui soit le décalque pur, mais c'est une variation.
Tes deux seins sont comme deux moutons qui dévalent de la montagne, dont ta gorge est comme un fan, etc. Tout ça ?
Oui. On dit,
ouais. Ok.
Oui, j'ai le micro. Là. Merci.
Je vous en prie, monsieur.
Bon, c'est une question à monsieur Malik Chemel. À Bagdad, vous avez situé au XVIe siècle le retour des tabous qui a donc mis un frein à cet épanouissement de la vie amoureuse.
Il n'a pas dit le retour, il a dit l'arrivée. Hein,
mais oui, l'arrivée. Bon,
Peut-être que vous avez raison, mais je ne sais pas.
Des tabous qui, avec les siècles suivants, n'ont fait que s'amplifier au point que, actuellement, bon, pour avoir une vie amoureuse et sexuelle dans le monde arabo-musulman, c'est quand même pas à la portée de tout le monde et chez eux. Un grand nombre, ça engendre des frustrations. Alors, ma question est de savoir si ces multiples frustrations qui sont apparues et qui sont bien présentes, est-ce qu'elles ont joué un rôle dans ce qu'on a appelé les printemps arabes des dernières années ? Est-ce que ça a été un facteur déclenchant ?
Non, du tout. Je n'ai pas cette impression-là.
Mais Alex, c'est vraiment une question pour toi. Ça.
Je vais préciser la question des tabous. Je ne pense pas que ce soit en siècle qu'on doit analyser ça. Je pense que c'est un continuum, évidemment. C'est pas, moi, j'ai l'habitude de dire 1492, qui est la sortie des Arabes de l'Andalousie. Et ils sont sortis au printemps, début dans le premier quart, si vous voulez, de l'année. Parce que dans certains récits, on a encore de la neige dans le coin, le dégel de... Bon. Donc c'est le premier quart de l'année. 1492.
De Grenade, ça c'est de Grenade.
De Grenade, c'est la sortie de Grenade, ouais. Bouabdil, etc., qui quitte, qui remet la clé du domaine, si je puis dire, à Isabelle la catholique et Isabelle et Ferdinand, donc des musulmans aux chrétiens. Bon. 1492, la même année, à l'automne, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Donc c'est quand même une année très... bizarre, très charnière. C'est qu'une civilisation sort du domaine public, si je puis dire, et une autre rentre triomphalement dans le domaine public. Là-dessus, les musulmans sont refoulés au Maroc, en Algérie, en Tunisie, jusqu'en Turquie, et commencent à ressasser pendant un siècle, deux siècles, la perte de l'Andalousie, qui était pour eux le paradis sur terre. Donc là, ils ont cultivé, si vous voulez, une dimension négative, l'échec, au fond, l'échec et le traumatisme de l'échec a fait qu'ils ont été entravés intellectuellement à tout point de vue. Tout à l'heure, j'ai dit quand le raffinement venait en fin de parcours, en fin de cycle d'accumulation primitive, d'éléments de la culture, etc., de le dialogue, de la liberté, de l'expression, de la recherche, de la quête de beauté, etc. Là, pour le coup, c'est le raffinement qui a disparu en premier. Et depuis lors, on a été entravés à tout point de vue. Les frustrations sexuelles étaient immédiatement concernées parce que la cellule familiale n'était plus la même, les gens étaient exilés, on se retrouve avec une musique qui était mutilée, on se trouve, il n'y a pas d'art, il n'y a plus de territoire, il n'y a plus d'ancrage. Donc et pendant 2-3 siècles, on a été dominé par une dynastie, celle des Ottomans, qui était une dynastie plutôt belliqueuse, qui n'a rien produit au niveau culturel. Parce qu'on voit bien que le traumatisme a marqué également les Ottomans qui étaient donc qui ont débarré en Anatolie et en Turquie. Bon, belliqueuses, ils ont porté la guerre un peu partout pendant plusieurs siècles. Arrive le 19e siècle, 18e et 19e. Déjà 18e commence une renaissance majeure de l'intelligentsia arabe et arabe parce qu'ils avaient des chrétiens, quelques juifs et des arabes musulmans face à la domination déjà de l'Occident qui était déjà qui a pris ses aises et qui, avec la révolution industrielle, est devenu conquérant. Donc on a déjà, là déjà on parlait de la frustration sexuelle et de ce que ça pouvait être, il y avait pas, c'était pas une découverte, les gens savaient bien qu'ils étaient contraints. la fin du califat dans les années, début des années 20, dans les années 20, de 1920, 20, de 22 à 23, fin du califat musulman. Il n'y a plus de califat. Il n'y a plus quelqu'un au nom de Dieu qui va gérer la communauté humaine, la communauté musulmane. Donc, et l'enclenchement des États-nations a bousculé les repères et il a déstabilisé beaucoup de monde. Et on se retrouve aujourd'hui, si vous voulez, à, nous, à payer les casseroles de tous ces échecs successifs. Et donc, c'est pas la frustration sexuelle qui a déclenché la révolution arabe. La révolution des printemps arabes de Tunisie en particulier, d'Égypte et du Yémen, etc. C'est un processus lent qui a commencé par la décolonisation, déjà pas qui a commencé à la fin du califat. Parce que une revendication des printemps arabes, c'est de réinstaurer le califat, vous voyez. Donc ça a commencé là. La naissance des frères musulmans, 1928-1929, de Hassan al-Banna, qui vont fêter bientôt un siècle de l'exercice. Ils ont travaillé le corps de la société, ils ont exagéré ils ont mis le paquet sur les frustrations, ils ont marié les gens de force parfois, ils ont payé bref, ils ont fait du caritatif en permanence et de la démagogie au fond, idéologique. Et donc, c'est tous ces éléments-là qu'on a, colonisation, décolonisation. Moi, je pense que c'est une deuxième décolonisation, tout simplement. Les colons étaient extérieurs, maintenant c'est des colons intérieurs, parce que Ben Ali, c'est un colonisateur, hein, il a fonctionné comme un tyran. Moubarak, qui produit du Sisi bientôt, ça va être la même chose, ce sont les militaires qui gouvernent. Donc ce sont tous ces éléments-là. Le sexuel, je dirais que même le sexuel, c'était une voie négative de résolution de quelques conflits. Parce qu'il y avait une sexualité débridée, la sexualité a toujours été, existe toujours avec brio, mais de manière cachée, évidemment. Il n'y a pas encore de symbolisation, pas de théorisation, pas de valorisation, mais elle a toujours fonctionné. Parallèlement, moi je me rappelle très bien, au moment de la crise algérienne, de la décennie noire, de l'islamisme, c'était là qu'il y avait le plus de divorces, le plus de mariages, le plus d'enfants abandonnés, le plus de sexe débridé, etc. Donc, non, on ne peut pas dire... expliquer ça d'une manière mécanique, c'est une erreur historique. C'est plusieurs facteurs, c'est multifactoriel, et c'est progressif. Si vous ne tenez pas compte de ces deux facteurs multifactoriels, plusieurs, la cause, les dénivelés sociaux, la déprédation des puissants, la désaliénation, l'aliénation culturelle, etc. Et surtout progressif. Progressif, c'est un phénomène récurrent et qui se déclenche à un moment donné, évidemment.
Melek, vraiment, tu nous apprends des choses extraordinaires aujourd'hui. J'ai appris deux choses de ta bouche aujourd'hui. D'abord, que l'auteur des Mille et une nuits, c'est une femme. Ça restera dans ma tête. Hein. Et puis, tu nous as expliqué, en fait, que le refoulement sexuel, c'est le refoulement de Grenade, en fait. Ah, d'accord.
Le jour où les Arabes arriveront au niveau où ils étaient à Grenade, ils ne poseront plus de problème à personne, et pas à commencer par eux-mêmes. Ils vont s'aimer un peu plus. Les Arabes, le problème des Arabes, c'est qu'ils ne s'aiment pas suffisamment. Ils ne s'aiment pas parce qu'ils n'ont pas confiance en eux.
Merci de toutes ces créations, franchement. Alors, une autre question.
Oui, j'ai.
Qui est-ce qui parle?
C'est moi.
Ah, pardon.
Bonsoir. J'ai une question pour Véronique Grandpierre. Si j'ai bien suivi, Inanna est pourvue donc de deux paires d'ailes, de cerfs.
Une paire,
oui.
Et surtout, c'est une divinité de la nuit, si j'ai bien compris.
Alors, non, il y a une. Elle est représentée de la même façon que sa sœur, qui est Ereshkigal, qui est la déesse des enfers, parce qu'il y a tout un mythe d'Inanna qui descend aux enfers pour prendre le domaine de sa sœur. Et qui est bloqué, reste bloqué aux enfers, sa sœur l'ayant terrassé, ayant pendu sa dépouille à un vieux clou. Et à ce moment-là, le dieu du ciel, voyant qu'il n'y a plus aucun bébé qui naît, plus aucune plante qui pousse, envoie deux créatures hybrides venir la rechercher aux enfers et asperger sa dépouille d'eau de vie.
Exactement. Une histoire de jalousie. C'est, incroyable.
Voilà, et elle remonte, mais elle doit donner en échange quelqu'un d'autre pour lui succéder, pour être à sa place. Alors ça, cette personne étant suivant les versions, son amant, effectivement. qui est 6 mois de l'année remplacé par la sœur de celui-ci. Après, ça a donné d'autres mythes, notamment grecs.
D'accord, merci. Le fait qu'il y ait un enjeu autour du fait que les plantes poussent renforce ma question. Donc, je voudrais savoir si, à votre connaissance, il y a des liens qui ont été établis entre Inanna, sa sœur, et Lilith.
Alors, Lilith, ce sont des esprits de la nuit. Alors, effectivement, Lilith, c'est la méchante, hein, par la suite dans les religions. C'est aussi le nom de la première, qui a remplacé Ève. Pas celle qui l'a remplacée, c'est la première. Je ne sais pas si on peut dire la première Ève, mais enfin, disons que la première épouse d'Adam. Lilith, à l'époque, c'est plutôt l'esprit malfaisant qui va tuer la personne avant son mariage, qui va détourner le fiancé de sa propre femme, enfin de celle qui aurait dû devenir sa propre femme, et qui va le tuer juste avant sa nuit de noces. Ça n'a rien à voir avec Inanna, parce que Inanna, justement, c'est l'inverse. Le jeune homme va être tellement subjugué par Lilith qu'il va en oublier sa promesse, qu'il va oublier d'aller se marier, et qu'il va rester avec elle et qu'il va succomber.
Merci beaucoup. Merci à vous d'être présent ici.